La suite dans les idées, Sylvain Bourmeau. Régulation, le mot s'est progressivement imposé dans l'espace public pour désigner un mode de gouvernement supposé plus efficace. On ne gouverne plus, on régule, ou plutôt on gouverne en régulant. Comment l'expliquer? Qu'est-ce que ça signifie concrètement? Quelles en sont les conséquences sur les politiques publiques, sur la politique en général? Sur ce moment régulateur, qui coïncide aussi avec la prolifération d'agences suppléant aux administrations classiques et au brouillage de la frontière entre public et privé, une équipe de chercheuses et de chercheurs, politistes, économistes et juristes, ont longuement mené une enquête collective. Deux sont les invités de la suite dans les idées cette semaine, Antoine Vaucher et Anne Belon. Ce mouvement de régulation participe d'un mouvement peut-être plus large de montée en puissance de ce que ces auteurs appellent une contre-culture de gouvernement qui est très liée à la multiplication aussi de ce qu'on appelle des autorités administratives indépendantes. Alors, toutes ne régulent pas nécessairement. Dominique Simoneau, qui est la contrôleuse générale des lieux de privation de liberté, l'une de ces autorités administratives indépendantes, nous rejoindra en seconde partie d'émission. Bonjour Antoine Vaucher.
Bonjour.
Et bonjour Anne Belon, Antoine Vaucher, vous êtes directeur de recherche au CNRS, au CESP, et Anne Belon, vous êtes, je crois, maîtresse de conférence en sciences politiques à l'université. Vous allez compléter.
Technologie de Compiègne.
Voilà, à l'UPEC. Antoine Vaucher, j'ai le sentiment que cette émission est une forme de suite dans les idées, une suite à une émission précédente à propos d'un livre que vous aviez co-signé avec Pierre France sur le brouillage entre le public et le privé. Vous étiez intéressé au monde des avocats en particulier, et j'avais retenu notamment une chose de cette lecture et de cette émission, l'idée que progressivement, alors qu'autrefois on pouvait dessiner l'organigramme de l'État dans toutes ses hiérarchies, qu'on voyait les contours de l'État assez nets, ça devenait de plus en plus compliqué parce que beaucoup de choses étaient dans des zones grises, dans ce brouillage entre public et privé. Au fond, c'est cette question que vous continuez de poser, d'interroger à propos d'une autre transformation du gouvernement, mais qui concerne aussi ce brouillage public-privé, et cette manière, au fond, de faire autrement qu'avec les outils classiques de ce qu'en France on appelle le droit public, parce qu'il y a une spécificité française, on y reviendra, de la régulation. Ça s'inscrit dans cette suite?
Oui, je vous remercie de faire le lien, effectivement, avec cet ouvrage précédent. Effectivement, quand on avait travaillé sur ces avocats d'affaires, en les suivant, on s'était assez rapidement rapproché d'institutions qui passent le plus souvent sous le radar, qui sont ces petites bureaucraties indépendantes qui sont composées essentiellement de fonctionnaires de catégorie A, qui sont des administrations légères, on pourrait dire.
C'est-à-dire les plus hauts fonctionnaires.
Les plus hauts fonctionnaires, c'est ça, des dirigeants publics, et qui, aujourd'hui, autour des quels, effectivement, on voit comme autour d'une sorte de récif de corail, on pourrait dire, s'accrocher à un ensemble d'acteurs nouveaux de l'action publique, et notamment, effectivement, ces avocats d'affaires qui, traditionnellement, étaient d'abord des avocats des entreprises, mais n'avaient pas grand-chose à faire avec l'État, et là deviennent, en fait, aussi des intermédiaires par rapport entre les acteurs de marché et l'État. Et effectivement, en suivant ces administrations, on a vu, finalement, proliférer à partir des années 2000, et c'est un peu l'objet de cette enquête, les mots de la régulation. Des mots qui, a priori, pourraient paraître finalement comme un peu des faux amis, parce que le mot régulation, on hésite en quelque sorte à l'aborder, parce qu'il est un peu écrasé par les couches de signification qui se sont accumulées au fil des années. Mais on voit bien qu'à partir des années 2000, la régulation prend un nouveau sens autour, dans ces autorités et à la périphérie de l'État, autour de ces acteurs. Ça peut être aussi bien des grandes entreprises qui se disent co-régulatrices et qui multiplient dans leur gouvernance des nouvelles figures on les appelle les compliance officers, c'est-à-dire des cadres chargés de la conformité aux normes publiques, et puis ces professions intermédiaires comme les avocats, et puis aussi des nouveaux cadres dirigeants de l'État. Et donc ces mots de la régulation, ils sont bien sûr un ensemble de discours, mais on voit aussi un ensemble de pratiques qui se réinventent autour de ces agences, qui essayent en quelque sorte, ou qui revendiquent une efficacité dans un État qu'il considère comme finalement impuissant désormais, dans des gouvernements qui font preuve de leur immobilité, face à une culture officielle de l'État qui est très critiquée en quelque sorte à l'intérieur de ces agences, culture officielle du droit public, culture officielle de la gestion publique et des finances publiques, par rapport auxquelles ces agences prétendent au contraire être plus légères, plus efficaces et réussir là où le gouvernement échoue, c'est-à-dire en sanctionnant les GAFAM, c'est-à-dire les grandes entreprises du numérique, en encadrant la vie politique, la déontologie, puisqu'aujourd'hui on régule toutes sortes de choses, les données publiques, le pluralisme, on l'a vu encore avec l'ARCOM dans une décision récente, ou encore les données privées, la concurrence ou le médicament. Et donc l'espace du régulable s'est progressivement étendu, et c'est ça que ces 13 chercheurs et chercheuses qui participent à cette enquête ont travaillé au fil de ces dernières années.
Alors Antoine Vaucher vient de le dire, Anne Bellon, l'une des raisons peut-être qui permettent de comprendre l'emballement pour ce mot, la diffusion de cette expression de régulation en ce sens-là, tient à une critique qui est déjà ancienne d'inefficacité adressée au gouvernement ou au Parlement d'ailleurs, parce que bon, on se souvient de ces anciennes expressions, ça remonte, on ne gouverne pas une société par décret ou des critiques de l'inflation législative, on est obligé de passer de plus en plus de lois, mais on ne les applique pas. Enfin, c'est un discours très entendu. Est-ce que, au fond, la montée en puissance de la régulation s'est nourrie de ces critiques-là pour proposer une forme de substitution, on a l'impression, du mot réglementation par celui de régulation?
Tout à fait. En plus, on peut, alors c'est ce qu'on a fait dans le livre, on peut un peu situer ces deux moments de critique très forte de l'action de l'État. Une première qui a lieu dans les années 1990, autour d'une vraie pression européenne à la marchandisation de grands monopoles de l'État. Et donc là, l'extension de l'espace du régulable, c'est aussi une extension de l'espace marchand par rapport à celui du public, avec tout un tas d'agences de régulation qui vont émerger. Mais vous avez aussi raison de dire que la régulation porte une critique plus forte que moi j'ai bien vue en travaillant sur les politiques publiques numériques, c'est-à-dire qu'on aurait affaire à un domaine qui change trop vite, extrêmement complexe, qui suppose des savoirs qui sont un peu différents, plus spécialistes, auxquels vont répondre de nouveaux types d'administration, comme les autorités de régulation, qui seraient plus flexibles.
Agiles.
Voilà, parce qu'elles peuvent aussi accueillir des contractuels, des gens qui viennent directement de ces secteurs marchands qu'on cherche à réguler. Et donc, cette plasticité qu'on prête à la régulation, elle vient répondre, en effet, à des critiques de la bureaucratie qui se sont développées et accentuées depuis les années 90.
Autre facteur, Antoine Vaucher, du développement de cette régulation, ou en tous les cas de l'usage du mot et de ses pratiques associées qu'on va décrire. L'Europe, l'Union européenne, vous avez beaucoup travaillé sur Bruxelles, sur le gouvernement à l'échelle européenne. Ça contribue fortement à remettre en question un modèle, pour le coup spécifiquement français, de centralité du droit public.
Oui, c'est-à-dire qu'en fait, une partie de cette histoire, effectivement, commence aussi à partir des années 80. Alors, Anne y a fait référence, mais c'est vrai que c'est une histoire européenne. C'est une histoire de l'encastrement de l'État français dans un circuit européen et dans le tournant à partir des années 80 qui consiste à élargir le domaine du droit de la concurrence, accompagner les libéralisations de ces domaines classiques des monopoles d'État, qui étaient les transports, les télécommunications, l'énergie. Et on a vu finalement de nouveaux cadres publics, de nouveaux savoirs d'État, en quelque sorte, qui émergent autour de l'accompagnement de cette libéralisation et autour de la construction de ces agences qui sont censées gouverner les marchés. Gouverner les marchés à la fois pour orienter, accompagner leur libéralisation, faire fonctionner ces marchés libres et concurrentiels, mais aussi pour préserver certains intérêts publics. Ça peut être le respect d'un certain pluralisme, le maintien de certains services publics, etc. Et on retrouve donc des figures de gouvernants autour de ces agences, notamment autour de l'autorité de la concurrence, mais pas seulement, qui sont dans un travail d'équilibre permanent entre des différents types d'intérêts qui sont des intérêts publics à défendre, mais aussi une façon, on pourrait dire, d'endogénéiser les enjeux de marché dans l'action publique, c'est-à-dire de faire entrer l'idée de gouverner le marché, d'assurer son attractivité, etc. Et c'est cette espèce d'équilibre permanent qui est la manière dont on pourrait définir aujourd'hui la régulation, c'est-à-dire c'est quelque chose qui est en permanence dans cette espèce d'équilibrage, de rééquilibrage entre différents types d'intérêts à la frontière du public et du privé.
Anne Bellon, il y a un autre élément qui est important aussi, c'est que c'est le moment, et tout ça est lié évidemment, où se développe une certaine vision de la gouvernance à travers l'expression « new public management » pour le monde anglais ou américain, mais la version française étant par exemple la révision générale des politiques publiques mise en œuvre par Nicolas Sarkozy, président de la République. C'est ce moment aussi qui incite à peut-être envisager différemment les politiques publiques et notamment leur évaluation, en fait.
Tout à fait. Donc, nous, ce qu'on essaie de montrer dans le livre, c'est que l'avènement de cette contre-culture de gouvernement, elle épouse des mouvements de transformation de l'État qui sont assez ancestraux, mais qui vont s'accélérer à partir des années 80, 90 et 2000. Et vous les avez bien cités, avec d'abord l'introduction de ce qu'on appelle le nouveau management public et l'introduction d'outils de management dans le contrôle de l'État par lui-même et de son efficacité, et qui va s'accentuer lors de la présidence Sarkozy, avec aussi des grandes lois cadres.
La loi de finances aussi qui change.
Voilà, la LOLF en 2001, puis la RGPP, qui vont vraiment recadrer la manière dont on pense l'action publique. Et c'est vrai que la régulation vient répondre à ça. Mais dans le bouquin, on montre aussi ses racines un peu plus profondes, et on y reviendra peut-être
avec Dominique Simon dans la seconde partie.
Aussi de l'idée, dans la critique de la bureaucratie, il y a une critique de ses pouvoirs excessifs. Et moi, je l'ai beaucoup vu en travaillant sur la CNIL, donc une autorité qui défend la vie privée des citoyens. Et d'abord, elle défend la vie privée des citoyens face à l'État. Donc, il y a aussi cette volonté très forte dans la critique anti-bureaucratique d'encadrer ce que peut faire l'État et un excès de ses pouvoirs. Et c'est vraiment ces rencontres assez paradoxales, peu évidentes, qui nous ont intéressés dans le livre pour montrer que finalement, ça a formé un ensemble assez cohérent autour de ce terme très hybride. Et on a du mal à le définir. On voit bien, même vous avez posé la question en début d'émission, est-ce que ce que fait une contrôleuse des lieux de privation des libertés, c'est de la régulation? On voit bien que ça, c'est une vraie question de recherche.
On va revenir sur la CNIL sur laquelle vous avez travaillé, parce que c'est un exemple particulièrement intéressant, mais toujours pour essayer de comprendre un petit peu les raisons pour lesquelles cette régulation est montée en puissance, Antoine Vaucher, on peut s'interroger sur le rôle qu'a pu jouer en la matière la science politique ou la sociologie politique ou le droit, c'est-à-dire un certain nombre de savoirs spécifiques, notamment le fait que ces disciplines se sont orientées vers ce qu'on appelle l'analyse des politiques publiques, leur évaluation, des savoirs qui n'existaient pas à proprement parler 20 ans ou 30 ans auparavant. Dans quelle mesure ils ont contribué à l'expansion de ce type d'agence en créant aussi un marché du travail pour des jeunes diplômés en la matière?
Oui, dans l'ouvrage, on évoque ça un petit peu incidemment, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est frappant de voir émerger, alors, comme on dit, autour d'universités qu'on pourrait dire entrepreneuriales, comme Sciences Po Paris ou comme l'Université Dauphine, qui font assez rapidement place à cette notion de régulation, une notion qui est intéressante parce qu'elle vient brouiller les grands couples d'opposition classiques, notamment du droit public et du droit privé, et sur lesquels, justement, ces universités vont construire des nouveaux programmes. Mais on pourrait aussi citer toutes sortes de programmes de droit économique ou de droit de la régulation qui émergent à Paris 1 ou à Paris 2 ou dans un ensemble d'universités et qui font aussi des nouvelles filières des nouveaux viviers pour ces dirigeants publics ou ces cadres dirigeants, je dirais, des agences, effectivement, autour de savoirs de la régulation. Ce sont vraiment aussi des savoirs du gouvernement public-privé. Ce sont des savoirs qui sont liés aux manières par lesquelles on va construire un gouvernement, comme on l'appelle dans le livre, un gouvernement rapproché, au plus près des régulés. Mais les régulés, c'est souvent les grandes entreprises, en l'occurrence. C'est aussi, mais plus marginalement, les ONG ou des représentants des associations de consommateurs. Mais le plus souvent, c'est comment réussir à inciter, comment réussir à construire un gouvernement un peu partenarial, on pourrait dire. Et donc, on voit émerger toutes sortes des petites révolutions symboliques sur lesquelles ces agences se jouent beaucoup, qui est, eh bien, on va faire du réguler un régulateur aussi, puisqu'on va lui proposer de travailler ensemble pour construire les nouveaux règlements. On va lui proposer d'avoir à l'intérieur de ces grandes entreprises justement des responsables de conformité, on a dit tout à l'heure compliance, et qui vont relayer au sein des grandes entreprises en quelque sorte les impératifs de la régulation. Donc c'est cette espèce de co-régulation qu'on voit émerger avec toutes sortes de voilà, de procédures de consultation, de partenariat, de co-régulation, donc avec une sorte de, on pourrait dire presque d'obsession de cet enrôlement du régulé dans la régulation. Et c'est aussi là-dessus que se construit l'opposition par rapport à ce qui est conçu comme une culture classique de l'État, qui serait justement verticale et éventuellement autoritaire.
Prenons le cas donc de la CNIL. Si on pense à la CNIL aujourd'hui, peut-être on pense spontanément à des condamnations dont on fait l'objet des GAFAM, des grandes entreprises du numérique, pour non-respect de la protection de la vie privée en particulier. Et donc c'est la CNIL qui aujourd'hui est en situation de condamner des entreprises. C'est pas la justice au sens classique du terme. Pour autant, cette institution administrative indépendante, quand elle a vu le jour dans les années 1970, elle était loin de ce type de rôle, en fait. Vous le rappeliez tout à l'heure, Anne Bellon, elle a été le fruit de militantisme, de défense des libertés publiques, en fait, à un moment où l'informatique pointait tout juste le bout de son nez dans la société et se mettait avant même l'apparition des ordinateurs individuels, en fait, Anne Bellon.
Oui, alors c'est une l'histoire de la CNIL est très intéressante. Elle nous intéressait pour le livre parce que c'est aussi la première autorité administrative indépendante. C'est vraiment à ce moment-là qu'on invente le terme. Et pourquoi on l'invente à ce moment-là? Parce qu'on cherche à établir une forme d'autorité, de commission. Alors il y a beaucoup de réflexions autour de cette forme administrative qui à la fois défendrait des missions de service public, mais qui ne serait pas l'État. Puisque l'enjeu, à ce moment-là, vous l'avez rappelé, on est dans un cadre d'informatique balbutiante, mais les premières organisations qui s'informatisent, et surtout les organisations qui ont le plus de données personnelles, ce sont les administrations, ce sont nos données de santé, nos données scolaires, nos données fiscales, etc. Et ce qui fait peur à ce moment-là, c'est que l'État puisse constituer des méga-fichiers sur les individus et puisse du coup les contrôler excessivement. Et c'est dans ce cadre-là de ce débat que va être créée la CNIL comme première autorité administrative indépendante. Mais là, l'indépendance, il faut vraiment l'entendre comme une indépendance à l'égard de ce qui pourrait devenir un monstre État, donc quelque chose qui est un petit peu à côté et qui va défendre les droits des citoyens. Or, la CNIL, elle connaît une trajectoire extrêmement intéressante, puisque aujourd'hui, on ne pense pas spontanément à la CNIL comme une autorité qui prend notre défense face à la surveillance des États. Non, on la connaît, comme vous l'avez rappelé, avec ses amendes records imposées, notamment la dernière à Google, plus de 150 millions d'euros, qui fait peur, qui paraît extrêmement...
Même si ça reste une somme très très dérisoire
pour l'entreprise.
On regarde le chiffre d'affaires de cette entreprise.
C'est l'équivalent de même pas une demi-seconde d'activité en Europe, cette somme. Et comment on passe donc d'une autorité qui est vraiment pensée comme défense des citoyens face à l'État à une autorité qui finalement régule des marchés de la donnée? Et c'est justement cette petite histoire de la CNIL qui rentre dans une grande histoire de la transformation de l'État vers l'avènement de ces nouvelles fonctions de régulation des marchés, avec ces marchés autour de la collecte et de l'exploitation des données personnelles qui sont devenus extrêmement importants dans notre économie numérique. Et comme le dit bien Antoine, ça marche comment en fait le RGPD? Il y a certes des grandes sanctions symboliques, mais au quotidien, c'est quoi? C'est des policy officers, des compliance officers ou des DPO, hein, data protection officers, qu'on va retrouver dans toutes les entreprises et qui cherchent à faire quoi ? À mettre en place
en amont,
des règles définies collectivement pour éviter des sanctions de la CNIL. Et finalement, c'est ça peut-être le plus gros de la régulation, c'est ces espèces de négociations, de partenariats public-privé, de co-régulation qui se mettent en place à l'ombre de ces très grandes amendes qu'impose la CNIL aux GAFA.
Alors ça, c'est absolument passionnant dans votre enquête, Anne Bellon, Antoine Vaucher, et puis l'ensemble des chercheuses et des chercheurs réunis autour de ce livre, Le Moment Régulateur. C'est au fond qu'on utilise parfois l'expression le gendarme de ceci ou de cela à propos de ces autorités. Et en fait, ça permet pas vraiment de comprendre le rôle que vous venez d'évoquer, c'est-à-dire le rôle d'encouragement des négociations. C'est-à-dire que c'est le contraire d'un gendarme. C'est pas une autorité qui vient dire « Attention, là, vous avez franchi la ligne jaune. » Ça peut arriver. On va vous condamner à une amende. Mais c'est plutôt la possibilité de tout négocier, Antoine Vaucher. De tout négocier avec des gens qui sont implantés, qui sont les interlocuteurs. Et vous dites c'est à rapprocher de techniques comme le plaider coupable, de faits comme les avocats qui tombent la robe pour apparaître en costume, c'est-à-dire en gros des avocats qui passent des tribunaux aux salons feutrés dans lesquels les avocats d'affaires négocient entre les grandes entreprises et l'État, par exemple. Là, on a l'impression d'une justice qui prend une forme très différente de la justice traditionnelle telle qu'on la connaît et qui n'est pas une affaire de négociation, mais simplement d'exécution des règles, tout simplement.
Oui, non, c'est juste effectivement que l'émergence de cette régulation correspond aussi à un élargissement de l'espace du négociable. Effectivement, ce qu'on voit apparaître, et c'est ça qui nous intéresse finalement, c'est ces modes de circulation entre agences qui font qu'elles acquièrent progressivement une autonomie à l'intérieur de l'État et qu'elles deviennent un véritable centre de pouvoir. C'est justement voir apparaître un certain nombre de techniques de négociation, enfin de procédures de négociation, ce qu'on appelle par exemple les procédures de clémence qui permettent aux entreprises en matière de concurrence, en matière de données privées, de se déclarer coupable, mais en se déclarant coupable, d'obtenir une forme de transaction de la peine et de ne pas en réalité être publiquement sanctionné comme coupable. Donc on a toute une série qu'on pourrait appeler, comme le fait Isabelle Boukobza, une des contributrices du livre, un droit public de l'ami. En quelque sorte, par opposition à la manière dont un juriste allemand avait parlé du droit pénal de l'ennemi, par rapport auquel on devrait déroger, a priori, parce que c'est un risque. Et là, au contraire, on déroge, mais on déroge pour collaborer, pour inciter, pour enrôler le régulé. Donc, en général, encore une fois, des entreprises qui sont les premiers interlocuteurs de ces agences. Donc, il y a ça, effectivement. Et à travers ça, c'est pour ça qu'on parle d'ailleurs de contre-culture du gouvernement, il y a toute une insistance sur le plaidoyer. C'est-à-dire, ces agences se pensent pas seulement comme justement des gendarmes, vous l'avez bien dit, de moins en moins en fait comme des gendarmes, mais comme des avocates ou comme des porteurs de plaidoyer, en quelque sorte des ONG, on pourrait dire presque à l'intérieur de l'État,
C'est congruent avec la culture des ONG.
Congruent avec la culture des ONG, effectivement, y compris dans la manière de tweeter, dans la manière de construire une communication hyper réactive, etc. Mais l'idée aussi qu'il s'agit moins de sanctionner. Mais de contraire, de diffuser une culture, justement, une culture de la concurrence, une culture de la protection des données, une culture de la déontologie. Et en réalité, c'est autour de cette redéfinition-là du rôle, c'est-à-dire il s'agit moins désormais d'être un gardien de l'ordre public ou de pratiquer une police, justement, des normes, qu'au contraire d'être dans une co-construction de l'action publique au plus près des intérêts et des enjeux dérégulés.
Anne Bellon.
Oui, pour rebondir là-dessus, je fais beaucoup d'entretiens en ce moment à l'ARCOM, et donc l'autorité de régulation des communications numériques depuis quelques années. Et ça fait plusieurs fois que j'entends, mais nous, si on arrive à une sanction, c'est qu'on est en échec, c'est qu'on n'a pas réussi à réguler. Et donc, c'est intéressant de voir comment les régulateurs eux-mêmes transforment ce rôle à l'origine de gendarme en disant Notre rôle, c'est plutôt que d'elles-mêmes, les entreprises adoptent, intériorisent un certain nombre de missions publiques, donc dans le cadre de l'ARCOM, par exemple, voilà, la fiabilité des informations en ligne, la pacification du débat public, etc. Et donc, ça me faisait vraiment penser à ce que disait Antoine, parce qu'on voit bien, là, c'est un basculement très fort, et la diffusion d'une culture publique-privée de la mission publique par le marché, par un droit qui est essentiellement privé.
En vous lisant, en lisant ce livre, Le Moment Régulateur, et en vous écoutant aujourd'hui, je n'arrête pas de penser au hiatus qu'il y a, au fond, entre ce que vous décrivez, du fonctionnement du pouvoir politique, qui est quand même l'objet central de la sociologie politique, et les représentations qu'on en a, les représentations que le journalisme politique en donne quotidiennement, encore aujourd'hui. On a l'impression que tout ce que vous décrivez là passe complètement à côté des représentations publiques partagées. Et là où on travaille encore, où n'importe quel citoyen fonctionne encore avec un système d'équilibre des pouvoirs, avec l'exécutif, le législatif, le judiciaire, des choses assez simples, assez carrées qu'on apprend à l'école, qu'on continue d'apprendre à l'université et qu'on lit dans les journaux en permanence. En fait, ça permet pas du tout de décrire avec finesse la réalité de l'exercice du pouvoir politique aujourd'hui, Antoine Vaucher.
Je pense que c'est un des postulats, de la sociologie politique, hein, que le pouvoir n'est pas toujours là où on l'attend, et que effectivement c'est à partir de ça qu'on part en général en enquête pour essayer de voir quels sont les nouveaux espaces de pouvoir. Et effectivement, ce qu'on a vu un petit peu sous nos yeux, parce que c'est une enquête un peu au long cours, une enquête collective, c'est un peu se cristalliser progressivement cet espace de pouvoir qui effectivement met un peu en porte-à-faux nos représentations classiques d'un gouvernement qui est, comme le dit l'article 20 de la Constitution, celui qui conduit l'action publique. Là, ce qu'on voit se dessiner quand même, c'est une chaîne de régulateurs, une chaîne euro-nationale, qui n'est pas franco-française, mais qui a un espace euro-national, puisque en fait tous ces régulateurs sont en réseau européen. Ils ont une action diplomatique, on pourrait dire. Ils ont une action européenne. Et ils échangent et ils construisent des mobilisations avec ces acteurs européens. Donc, c'est effectivement un espace de pouvoir qui va aussi à l'encontre, on pourrait dire, de ce que Nicolas Rousselier avait, de manière remarquable, décrit dans l'émergence de la force de gouverner.
Dans son grand livre sur la Troisième République.
Voilà, autour de l'exécutif. Et là, on voit au contraire quelque chose qui déstabilise justement la concentration des pouvoirs autour et la capacité à gouverner en quelque sorte des exécutifs. Alors on pourrait continuer à discuter, c'est-à-dire la manière dont les exécutifs essayent aujourd'hui de reprendre la main, comme on l'a vu au moment Covid, par exemple avec des états d'urgence, par exemple avec le recours au cabinet de conseil qui leur permettent de reconstruire des marges de manœuvre politique et de chercher à reprendre la main sur cet espace administratif qui se parcellise en quelque sorte en autant de petits gouvernements sectoriels autour des agences. Donc il y a effectivement ce double mouvement.
Alors, mouvement qui est inégalement réparti selon les domaines aussi. On va voir que ce qui touche certains domaines, notamment la privation des libertés, n'est pas affecté de la même façon que les marchés financiers ou le numérique. On voit ça tout de suite avec Dominique Simoneau, la contrôleuse générale des lieux de privation de liberté, donc à la tête de l'une de ces autorités administratives indépendantes, qui nous rejoint en seconde partie d'émission. C'est après un extrait d'un nouvel album à venir de Eels Goldie.
La suite dans les idées, Sylvain Bourmont.
Time. It's all about time now. Tick-tock, I rock. But then I look at the clock. Knock, knock, who's there? Well, I don't dare. Open the door. Time. There was nothing but time then. Click, clack, riding down the tracks. Never worried about coming back.
Any place look good to me? Why not stop and see? What's there? There isn't much time now. What's the fear? Well, I like it here with the ones I love so near. Maybe there's just some way, dear God. I can stay.
On parle du moment régulateur, naissance d'une contre-culture de gouvernement. C'est le titre d'un livre sous la direction d'Antoine Vaucher. On en parle avec lui, avec Anne Bellon, mais on en parle aussi avec vous, Dominique Simoneau. Bonjour.
Bonjour.
Vous avez été longtemps journaliste et vous êtes depuis quelques années maintenant contrôleuse générale des lieux de privation de liberté. Cette institution, qui est une petite institution, existe depuis quand ?
Depuis 18 ans.
18 ans. Et ça fait partie de ce qu'on a caractérisé depuis le début de l'émission comme ces autorités administratives indépendantes. Est-ce que vous vous reconnaissez dans ce paysage en évolution qu'ont esquissé Anne Bellon et Antoine Vaucher, à savoir de la montée en puissance de ce mot de régulation ? On a l'impression que ce qui concerne des domaines comme le vôtre, mais on pourrait dire aussi probablement la police ou l'armée, est assez peu touché par la montée en puissance de la régulation, contrairement au secteur économique.
Alors, je pourrais vous dire, oui, on n'est pas du tout touché par ce moment régulateur, mais d'un autre côté, comme on porte, le CGLPL porte la régulation carcérale, je me suis bien reconnue quand même. Je me suis dit, bah tiens, je tombe au bon moment régulateur. Et la régulation carcérale, c'est vrai que c'est un mot qui peut paraître barbare. En dessous, il veut dire pas plus de prisonniers que de places de prison, ce qui est quand même un minimum. Je rappelle qu'en Allemagne, 20 millions d'habitants de plus que nous, 15 000 détenus de moins, un par cellule, 70% des détenus au travail, contre 28% ici. Je donne que ça comme...
Il n'y a pas de directive européenne en la matière, il n'y a pas, contrairement au numérique, etc., il n'y a pas une directive. Alors, qui dit qu'il faut que les choses soient...
Il y a, par exemple, la Cour européenne qui condamne la France régulièrement, il y a le comité des ministres du Conseil de l'Europe, là, qui vient de rendre un avis extrêmement sévère. Il vient tous les ans et il rend des avis de plus en plus sévères en disant « mettez un terme à votre surpopulation systémique ». C'est quand même très vexant pour nous. Et alors, c'est très vexant. Mais c'est surtout infect, parce que j'ai la chance, je peux dire la chance, oui, avec ce nouveau métier, de rentrer dans les lieux qui sont un peu interdits aux journalistes que vous êtes et que j'étais.
Et d'y rentrer sans prévenir en plus.
Et d'y rentrer sans prévenir jamais, mais c'est effroyable ce qu'on voit, ce que je vois. Je vous assure que la première fois qu'on m'a ouvert la cellule où il y avait 3 personnes dedans, vous pensez pas régulation là, vous pensez mais ça va pas. Trois hommes qui ont 1 mètre carré par personne, qui sont couverts de morsures, de punaises de lit, qui chassent les cafards avec des rats partout. Vous avez vu, il y a un autre cas de leptospirose là en France, à Paris. Enfin bon, en prison. Ben voilà. Donc la régulation carcérale, c'est un mot. D'ailleurs, je ne sais même pas qui l'a inventé. Mais ça doit venir de votre idée, de cette régulation, ce moment régulateur. En fait, il recouvre un peu le numerus clausus, pas plus de prisonniers que de places.
Alors, vous vous reconnaissez dans l'idée d'une
oui.
contre-culture de gouvernement, parce que on parlait tout à l'heure de la naissance de la CNIL
oui.
Comme une autorité à l'intérieur, enfin indépendante de l'État, et là pour contrôler l'État. C'est un peu la même philosophie qui a présidé à la création de l'institution que
oui,
vous dirigez.
Ça fait 15 ans, pas 18, j'étais trop... qu'on existe, que le CGLPL existe. Oui, exactement. Mais c'est pour faire, c'est drôle d'ailleurs de créer cette autorité qui est faite pour faire le contrebalancier de l'État. Mais pas que, par exemple, en psychiatrie. La psychiatrie, c'est un secteur dévasté. Nous, on a de cesse d'appeler à ce que l'État fasse ce qu'il faut pour recruter des psychiatres du public. Par exemple, on a eu une proposition qui n'a pas eu grand succès auprès des médecins, c'est de ni du ministre de la Santé, ni du Conseil de l'Ordre des médecins, d'obliger les psychiatres à donner de leur temps, après leurs études gratuites, dans des hôpitaux publics. On le donne déjà, quand on est interne, je vois bien qu'il y a un problème. Je sais que c'est une très lourde tâche, mais moins il y a de médecins, psychiatres dans le secteur public, plus ça va être dur la tâche. Et plus les lits sont fermés, n'ont jamais été remplacés par ce qui conviendrait de faire, c'est-à-dire soigner les gens avant la crise terminale qui les amène en soins sans consentement et à être enfermés. Il y a une espèce de... L'an dernier, j'avais parlé d'une inertie de l'État. Et nous, c'est ce qu'on combat beaucoup. L'inertie de l'État et l'abandon de l'État et des gens enfermés et de ceux qui les gardent ou les soignent. C'est très grave, je trouve. Parce que ces gens enfermés vont sortir. Il faut que tout le monde le sache. À part certains détenus, tous les détenus sortiront. Et là, on parle de régulation à propos des détenus qui ont commis des petits délits. Comme on l'a fait du temps du Covid, où c'est installé, vu l'urgence et vu, parce que la peine de mort n'étant plus de mise en France, on n'allait pas laisser mourir les prisonniers. Et donc, c'est installé à toute blinde un mécanisme de régulation. Ben, c'est ce qu'on appelle exactement. Et là, à mon avis, l'urgence, elle est causée par le nombre effroyable de prisonniers. 77 600 pour 60 000 places, qui fait qu'en fait, il y a 45 000 personnes en France qui vivent à trois dans une minuscule cellule.
Alors, vous, à la tête de cette institution, vous pouvez constater ça, constater de différentes manières, constater les chiffres, constater la réalité des lieux dans lesquels vivent les gens, leurs conditions de vie. Vous pouvez en témoigner publiquement, vous faites des rapports, vous émettez des avis, mais vous n'êtes pas un gendarme. D'ailleurs, on a vu qu'aucune de ces autorités n'était vraiment un gendarme, mais vous n'êtes pas en mesure non plus, à la différence de la CNIL, de condamner les responsables de cette situation.
Voilà. Je vais vous dire, au début, ça m'embêtait. Et puis, mes collègues m'ont expliqué que, finalement, c'était une chance pour nous. Parce que je crois que, dans tous les lieux où on va, on parle à la fois aux gens enfermés, mais aussi au personnel, aux gens qui les gardent, aux surveillants de prison, aux infirmiers, aux médecins. Je pense qu'ils ne seraient pas libres du tout de nous parler s'ils savaient qu'à la fin, s'ils nous racontaient, par exemple, ce qu'ils nous racontent souvent, machin, tel surveillant, il est bizarre, il tabasse les détenus. Ils ne pourraient pas nous raconter ça s'ils savaient que ça allait déboucher sur une condamnation de notre part. Nous, notre moteur, maintenant, et d'ailleurs, maintenant c'est très clair dans ma tête et dans notre tête au contrôle, on a décidé de se servir un maximum des juridictions administratives en particulier, et judiciaires également. Nos rapports, ils sortent d'abord beaucoup plus vite qu'avant, donc ils sont actuels. Ensuite, ils sont portés par des avocats et des associations telles que l'Observatoire international des prisons devant les tribunaux. Ces deux dernières années, il y a eu énormément de condamnations appuyées sur nos rapports. Il y en aura d'autres. Et je pense que les mêmes faits peuvent produire les mêmes effets en psychiatrie où il y a des conditions indignes d'enfermement. Ça peut très bien. D'ailleurs, il y a des avocats très audacieux en psychiatrie qui s'en sont emparés et qui portent nos rapports aussi, qui vont, voilà, et pour la garde à vue et pour tous ces endroits privation de liberté.
Antoine Vaucher, Anne Bellon, au fond, on est dans un fonctionnement classique, c'est-à-dire on voit l'importance de la publicité. La publicité pour des expertises, des avis qui viennent de l'intérieur de l'État, en quelque sorte. Mais voilà, cette institution qui est là pour ça. Et l'articulation avec le droit public, en l'occurrence, les tribunaux administratifs, le Conseil d'État, pour finir par prendre des jugements, tout simplement.
Oui, en effet, il y a deux choses qui me font réagir. D'abord, cette idée qui est très importante, notamment à la CNIL, que la sanction, ça n'est que l'un des très multiples outils qu'ont à leur disposition les autorités de régulation. Et vous l'avez bien dit, il y a les rapports, les avis qui sont émis, sur lesquels on va jouer d'ailleurs sur des niveaux de publicité, parce que tous les rapports de la CNIL n'ont pas le même niveau de publicité, qui font partie de ce travail plutôt d'incitation, de rééquilibrage qui est vraiment celui de la régulation. Et puis, quand on caricature peut-être la régulation en certains gendarmes des marchés, etc., on oublie qu'en fait, derrière toute sanction, il y a un travail très important au sein de ces autorités de ne pas se faire contredire cette sanction, puisque les entreprises, Google, et d'ailleurs Google l'a fait, va contester la sanction de la CNIL auprès du Conseil d'État. Et donc, le Conseil d'État se positionne là-dedans comme un contrôleur des contrôleurs que sont les régulateurs.
Comme il vient de le faire avec l'ARCOM.
Voilà, on est aussi dans un écosystème qui est très intéressant, où l'arsenal à disposition, et d'ailleurs l'arsenal le plus intéressant, n'est pas forcément le plus visible, celui de la sanction. Et ce qui nous a frappé, nous, en étudiant la régulation, c'est tous ces petits savoirs, et notamment celui de la compliance, qui en fait sont beaucoup plus au cœur de la régulation. Et puis, deuxième réaction, c'est aussi comment, à travers la régulation, l'État se dote d'outils de contrôle de lui-même. Et ça, je pense que Antoine pourra aussi mieux en parler, avec, par exemple, la mise en place de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. On voit que la régulation, elle a aussi accompagné ce travail de, comme dirait Philippe Bezès, de souci de soi de l'État, c'est-à-dire un État qui contrôle constamment ses administrations, sa propre efficacité, ce qui est au cœur du nouveau management public dont on a parlé tout à l'heure.
Oui, mais Dominique Simonneau, j'insiste sur l'importance de la publicité, parce qu'on pourrait imaginer, au fond, des inspections, ça existe d'ailleurs dans l'État, qui restent secrètes. Vous, ça ne marche que parce que, et d'ailleurs c'est assez logique de confier cette mission à une journaliste, c'est parce qu'au fond, vous avez accès, vous produisez des informations. Vous êtes en situation, en accédant à ces lieux, de produire des informations sur la réalité des conditions de vie des gens qui sont privés de liberté dans ce pays. C'est quelque chose de très important de pouvoir le rendre public. Après, vis-à-vis de l'État, mais vis-à-vis aussi de l'État dans tous les sens du terme, les élus,
tout le monde. Nous, tout ce qu'on fait est public. D'ailleurs, on va dans un endroit, même une journée, enfin on y va beaucoup plus longtemps, mais c'est même une petite visite sur place, c'est public. Après, on publie ce qu'on a vu. Tout ce qu'on fait est public. Donc voilà, je trouve que c'est très important. Et vous dites, oui, c'est bien d'avoir confié ça à une journaliste.
C'est logique, j'ai dit.
Oui, c'est logique. Et moi, j'ai beaucoup de chance, parce que évidemment, je connais un peu les arcanes du journalisme, et j'ai plein d'amis journalistes, donc ça m'a été facile de donner de la publicité à ce que je fais, parce que je dois vous confier que on a, certes, c'est très public, mais je peux pas dire que le sort des prisonniers, le sort des malades mentaux, le sort des enfants délinquants, le sort des étrangers en rétention passionne les foules. C'est tous les gens que tout le monde déteste, dont personne n'a rien à faire. Je trouve que c'est un beau rôle, mais c'est vrai que c'est pas facile de faire passer les messages. Donc, merci.
Ça contraste beaucoup, Antoine Vaucher, avec ce que vous décrivez. Au fond, on peut pas imaginer plus différent que ce système qui repose sur la publicité, sur un équilibre des pouvoirs, et puis le secret dans lequel une négociation va avoir lieu entre des membres d'une autorité de régulation de tel ou tel domaine et puis un responsable de la compliance à l'intérieur d'une multinationale. Les citoyens n'en savent rien, au fond, de la façon dont s'applique ou ne s'applique pas la loi quand elle est négociée en secret à ce niveau-là.
Oui, c'est sûr que ça crée des espaces de négociation, de tractation autour de justement de la portée de la norme, des exceptions qu'on lui donne, etc. Donc effectivement, ça met en négociation la norme et ça met en première ligne en quelque sorte des nouveaux acteurs comme les avocats ou ces dirigeants publics. Mais pour rebondir aussi, c'est vrai que le rôle de plaidoyer, ça rejoint quand même le rôle de plaidoyer qu'on retrouve dans ces différentes agences, c'est-à-dire le fait d'être de se penser en porte-parole de son secteur, de son domaine d'action publique, en représentant en quelque sorte ce qui peut être une ambiguïté dans certaines agences, c'est-à-dire d'être à la fois le contrôleur et le porte-parole du secteur, ce qui peut être effectivement parfois l'objet d'une certaine ambiguïté. Et puis l'autre point effectivement que je trouve effectivement assez caractéristique aussi des agences et qu'on retrouve dans votre CGLPL, c'est le fait de faire exister, ça l'a un petit peu dit Anne Bellon, en quelque sorte une voix extérieure à l'intérieur de l'État. Enfin, toute la difficulté qu'il y a à faire exister une voix externe à l'intérieur de l'État, c'est-à-dire d'internaliser la fonction critique, de lui donner des institutions publiques qui sont chargées justement de produire une critique ou de l'action publique, puisque c'est ça qui, finalement, c'est ça cette contre-culture. C'est d'essayer à l'intérieur de l'État de construire ces catégories. Alors, le CGLPL est dans une position très particulière parce que, effectivement, dans cet espace des agences ou des autorités, il est dans le pôle, je dirais, assez loin du pôle économique qu'on a évoqué tout à l'heure. Donc, il pense, j'imagine, je parle sous votre contrôle, bien sûr, son action très différemment. Mais on voit quand même cette famille de pratiques, malgré tout.
Mais vous voyez, un désespoir de cause, on en est venu, j'en suis venu à me dire, eh bien, il n'y a plus qu'un moyen, on va faire condamner l'État grâce à nos rapports, et peut-être que les choses vont bouger, parce que bientôt, on va faire les comptes, combien ça nous a coûté tout ça. Parce que je rappelle que...
Mais le faire condamner par la justice administrative.
Par la justice administrative ou judiciaire. C'est déjà un détenu, c'est 110 euros au jour par personne. Je vous ai décrit dans quelles conditions rapidement. C'est... pas l'hôtel, ni le Club Med, contrairement à ce que répandent certains. Et ça va nous coûter beaucoup plus cher en termes de condamnation. De même, au lieu de réparer ce qui existe dans les hôpitaux psychiatriques ou dans les prisons, on se lance dans des constructions, par exemple, de prisons qui dévorent le budget de la justice et de la pénitentiaire au lieu de réparer. Vous savez, quand vous visitez ces lieux, que vous dites, mais mon Dieu, je vois un fil électrique qui pend, à laquelle est raccrochée 3 doubles prises, avec des trucs qui pendent, le tout au-dessus d'une bouilloire. Je me dis, mais d'ailleurs, on a assisté à des incendies. Ça faisait le deuxième incendie en très peu de temps, là, auquel on assiste, avec des morts. C'est pas possible. C'est pas possible de laisser les choses dans cet état.
Merci Dominique Simoneau, contrôleuse générale des lieux de privation de liberté. Le travail de votre institution est public, tout est public. J'imagine qu'on vous trouve vos rapports et vos avis sur le site de l'institution. Merci à Antoine Vaucher et Anne Bellon. Je rappelle le livre auquel vous avez tous les deux contribué, Le moment régulateur, naissance d'une contre-culture de gouvernement, aux presses de Sciences Po. On trouve la référence bibliographique sur la page de l'émission, une page sur laquelle vous pouvez écouter l'émission et vous abonner au podcast. C'était la suite dans les idées, Sylvain Bourmeau avec Seam Boutata, à la technique aujourd'hui Dimitri Paz, à la réalisation Anne-Laure Chanel.